Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hyperoxalurie primitive et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Sandrine Lemoine. Docteur Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Docteur Lemoine, vous êtes néphrologue, maître de conférences universitaire et praticien hospitalier au sein du service de néphrologie exploration fonctionnelle rénale de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon et responsable du centre de compétences adultes Néphrogone des maladies rénales et phosphocalciques rares de Lyon. Alors docteur Lemoine, nous abordons aujourd'hui la prise en charge de l'hyperoxalurie primitive. Et pour débuter notre entretien, quels sont les types de prise en charge de première ligne de cette hyperoxalurie primitive ?
Alors déjà, le traitement conservateur, il doit être entrepris dès que le diagnostic est évoqué. Le but est d'augmenter la solubilité de l'oxalate de calcium dans l'urine et d'essayer également de réduire cette production d'oxalate hépatique. Le traitement, il repose principalement sur une hyperhydratation d'environ 2 à 3 litres mètre carré par 24 heures sur l'ensemble du nictémère, cela veut dire jour et nuit. Cela peut constituer certaines difficultés, notamment chez les jeunes enfants, et pour lesquels parfois, il est nécessaire de poser une gastrostomie. L'objectif est vraiment d'obtenir une dilution des urines maximale pour éviter au mieux la formation de cristaux d'oxalate de calcium. Toujours dans cette optique de dissolution de cristaux, nous prescrivons également du citrate de potassium. Il faut être vigilant sur cette prescription quand la fonction rénale devient très altérée puisque l'on apporte également du potassium avec ce citrate. Enfin, nous prescrivons également de la vitamine B6. Cette vitamine est le principal coenzyme de l'AGT. Et l'AGT, c'est l'enzyme qui est mutée dans l'hyperoxalurie primaire de type 1. Cette prescription est utilisée pour tenter de diminuer la production d'oxalate. Parce qu'elle peut parfois, dans certains types de mutations, améliorer le fonctionnement de ces enzymes. Cette vitamine B6 ne marche pas pour toutes les mutations et réduit environ l'oxalurie chez uniquement un tiers de ces patients. Mais il faut systématiquement la tester. Enfin, on nous demande souvent des conseils également sur l'alimentation. Alors, la réduction des apports alimentaires en oxalate n'influence pas tant que ça le cours de l'hyperoxalurie primaire de type 1, parce que l'oxalate alimentaire est bien inférieur à la surproduction endogène d'oxalate qui est associée au déficit enzymatique. Cependant, il faut tout de même essayer d'éviter une consommation trop excessive de chocolat noir, d'épinards, de rhubarbe ou une consommation très importante de thé lorsque la filtration glomérulaire est vraiment diminuée sous 30 ou 45 millilitres minute mètre carré 73.
Et si les patients s'aggravent, quelle est la place de la dialyse dans cette prise en charge ?
Alors, il faut savoir que la dialyse, par définition, n'est pas adaptée au traitement de l'hyperoxalurie primaire de type 1. Parce qu'elle permet jamais d'équilibrer la surproduction hépatique d'oxalate. Et donc, la surcharge tissulaire est inévitable. Mais il faut donc, quand c'est possible, au maximum anticiper la dialyse, mais ce n'est pas toujours très facile en pratique clinique, parce que certains patients se dégradent très rapidement et d'autres sont diagnostiqués au stade de l'insuffisance rénale chronique terminale.
Et dans ce cas, docteur Lemoine, quel type de dialyse recommandé ?
Alors, parce que l'hémodialyse n'est pure que l'oxalate soluble circulant, on a souvent un rebond de concentration à la fin de la séance à partir du stock global que l'on a au niveau de l'organisme et souvent à partir du stock du squelette. Il faut donc privilégier des séances d'hémodialyse quotidiennes plutôt que des séances prolongées trois fois par semaine. Donc vraiment, hémodialyse quotidienne à privilégier.
Et si la maladie continue d'avancer et que les patients atteignent le stade d'insuffisance rénale terminale ?
Alors, comme on a dit auparavant, il faut essayer d'anticiper au mieux la transplantation. Une chose importante, c'est qu'il faut contre-indiquer la transplantation d'un rein seul quand on a une hyperoxalurie, puisque les récidives sur le greffon sera immédiate par le relargage de tout l'oxalate contenu et stocké dans l'organisme. Donc, l'indication du traitement, notamment quand on arrive en insuffisance rénale avancée, est l'indication de greffe foire. Donc, idéalement, toute transplantation doit être une démarche précoce vers une filtration glomérulaire autour de 30-45 millilitres par minute. La transplantation hépatique, hein, c'est une forme d'enzymothérapie substitutive parce que le nouveau foie qui a été greffé permet d'apporter l'enzyme défectueuse du foie originel. La stratégie de transplantation va être dictée par l'évaluation du stock systémique en oxalate. Cette évaluation est difficile, elle est réalisée grâce à la clinique, grâce à la valeur du débit de filtration glomérulaire et notamment initial pour lequel la maladie est diagnostiquée et par l'oxalémie. La transplantation combinée foie-rein est délicate puisqu'elle existe même après la transplantation hépatique à une récidive du greffon. Nous avons donc deux solutions, hein. Soit les patients ont été suivis correctement et on essaye d'anticiper une transplantation foie-rein lorsque la filtration glomérulaire est autour de 30 à 15 ml par minute, par mètre carré 73. Soit le patient a progressé rapidement, a été en dialyse et où l'épuration doit être d'abord optimisée par de l'hémodialyse quotidienne. Et ensuite, dans un second temps, on envisage une transplantation combinée foie-rein. Mais lorsque les patients ont été diagnostiqués très tardivement, déjà au stade de dialyse avec un stock très important d'oxalate accumulé, il se discute parfois de faire une transplantation en deux temps, c'est-à-dire tout d'abord une transplantation hépatique, suivie d'une phase d'épuration optimale de l'oxalémie, avec si possible une oxalémie sous 30 micromoles par litre, et ensuite dans un deuxième temps, une transplantation rénale, ce qui permettra bien d'éviter une récidive massive de l'oxalate sur le greffon.
Alors, dans cette pathologie, de nouveaux traitements apparaissent, docteur Lemoine. Comment peuvent-ils modifier la prise en charge de l'hyperoxalurie primitive de type 1?
Alors, en effet, il y a actuellement une révolution dans le traitement de l'hyperoxalurie primaire de type 1 qui va permettre probablement d'éviter ces greffes de foie chez les patients. Il est apparu des nouveaux traitements par ARN interférent. Alors, ces ARN interférents, ils permettent de neutraliser spécifiquement des molécules d'ARN messager, donc diminuer l'expression de certains gènes d'intérêt. Ces gènes d'intérêt ont la particularité, grâce à ce traitement, d'être ciblés exclusivement au niveau des cellules du foie, hein, qui s'appellent les hépatocytes, grâce à la conjugaison de cet ARN avec un sucre spécifique qui les cible. Ces traitements vont vraiment complètement changer les perspectives thérapeutiques et éviter la transplantation de foie sain, finalement. Il existe d'autres traitements en cours d'essai. Certains résultats prometteurs ont été démontrés chez l'animal. Il y a un essai clinique en cours pour lequel nous attendons les résultats.
Eh bien, merci mille fois, docteur Lemoine, de nous avoir éclairé sur l'hyperoxalurie primitive. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.